Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons ce soir parler d'Origène. C'est un sujet très difficile, cache pas. Un personnage difficilement accessible. Et l'autre jour, il y a 8 jours, on demandait ici si on pouvait aimer Monterland. Je ne sais pas si on peut aimer Origène. Les raisons sont différentes. Monterland est charmant, mais on ne peut pas toujours suivre son charme. Origène n'est pas, au sens où on l'entendait au XVIIe siècle, aimable. C'est, vous allez voir, un massif escarpé, ardu. Je vais vous en faire faire le tour, je vous en montrerai les séductions, mais y serez-vous sensible? J'espère quand même quelques-uns, un petit peu, parfois. Je ne peux pas dire que je flatte beaucoup mon sujet en commençant. Mais je dois dire qu'au sortir de Clément d'Alexandrie, qui était tout rayonnement et tout enthousiasme flamboyant, nous arrivons ici à quelque chose de plus, à quelqu'un de plus austère. Mais certains estiment plus profond, plus sûr. C'est de tous les illustres docteurs des premiers siècles le plus influent. Vous verrez tout à l'heure. Le plus méconnu aussi. Pourquoi ? Eh bien, voyons tout de suite ce qui a occulté le rayonnement universel d'Origène. Car Origène a connu la gloire de son livre. C'était l'homme le plus célèbre de toute la chrétienté. On allait le consulter, le voir de tous les points du monde, ce qui existait alors. Après sa mort, il a encore été considéré comme un personnage, un phare, comme on dira plus tard. Et puis, il s'est éteint, et maintenant, c'est à peine un nom. Pourquoi cette éclipse? Eh bien, la première raison, toute simple, c'est que 50 ans après sa mort, la quasi-totalité de ses écrits furent détruits. Pas parce qu'ils étaient signés Origène, mais l'empereur Dioclétien, en 303, a fait brûler les livres sacrés. On a dévasté les bibliothèques, un holocauste de livres saints, toutes sortes. Et Origène parmi d'autres, d'ailleurs. Mais comme son œuvre était considérable, qu'elle occupait le devant des rayons, que... Et c'était le best-seller, l'auteur le plus connu à l'époque, évidemment, c'est par lui qu'on a commencé en laissant derrière d'autres œuvres. Mais on peut considérer que sur un total de 6000 titres, car on compte en gros 6000 titres différents d'Origène, on en a perdu les 9 dixièmes. Si nous connaissons une partie de l'œuvre et de la vie d'Origène, c'est grâce à un de ses disciples, ses successeurs, Eusèbe, le fameux Eusèbe, évêque de Césarée, qui lui a succédé longtemps après, enfin qui a été évêque longtemps après à Césarée où Origène avait enseigné. Origène n'a jamais été évêque, et qui nous a conservé une partie infime de ses œuvres et des traditions le concernant. Un naufrage, un désastre. Et puis, il y a une deuxième raison, car Origène n'est pas le seul, si j'ose dire, à bénéficier de cette destruction massive des livres de l'empereur iconoclaste, de Dioclétien. La deuxième raison, c'est que Origène a donné lieu de son vivant et après sa mort à de violentes disputes. On a 2 ou 3 mots qui surnagent dans notre mémoire, dans notre... clair-obscur intellectuel à propos d'Origène, en particulier cette alliance de mots, la querelle origéniste, qui est un maquis plein de broussailles, épineuse, où je ne vous engagerai pas d'ailleurs, assurez-vous. Mais enfin, ces querelles ont existé, et j'évoquerai simplement les causes de ces querelles. De son vivant, il a été attaqué, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Après sa mort, beaucoup plus encore, d'une manière violente, avec des polémistes de grand renom, puisque Saint Jérôme s'en est mêlé. Et avoir pour adversaire Saint Jérôme quand on est vivant, c'est terrible. Quand on est mort, on ne peut plus se défendre, alors c'est une exécution. Deuxièmement, et comme ces querelles ont laissé sur son nom des suspicions, ses œuvres furent reléguées, comme d'autre part elles n'étaient pas très brillantes par leur talent littéraire. Alors elles ont disparu peu à peu. Pendant un siècle et demi, Origène a joui de l'autorité la plus grande. Il était la référence des théologiens. Il a eu une influence considérable et déterminante sur les pères des grands conciles, déterminants pour notre foi, notre dogme de Nicée et de Constantinople. Et puis, à la fin du IVe siècle, il y a une offensive contre certains points de sa pensée, en particulier dû à certain saint Épiphane, dont j'ai peut-être parlé l'année dernière et que je retrouverai au coin d'un bois, certainement, cette année ou l'an prochain, car il est toujours embusqué au coin d'un bois pour attaquer les gens qui ne l'aiment pas. Et pour quelques exagérations, c'est vrai, pour quelques erreurs, dont il faudrait cerner, ce serait difficile, la définition exacte, toute l'œuvre a été affectée et frappée de discrédit. Et pendant 150 autres années, son œuvre a été attaquée, calomniée et délaissée. Et finalement, l'empereur Justinien a obtenu du 5e concile œcuménique de Constantinople qu'il frappa d'anathème l'impie Origène et tous ceux qui pensent et penseront comme lui. Disgrâce, oubli, jusqu'au 19e siècle, où il émerge, où il se réveille. Le réveil d'Origène est récent. C'est un réveil lourd, de polémiques, de suspicions qui demeurent. C'est un auteur difficile. Il reste peu de textes originaux. Lorsqu'on redécouvre Origène, aucun texte n'est vraiment digne de foi. Il a fallu rétablir tous les textes d'Origène. Ces textes avaient été édulcorés pour éviter les blâmes, pour sauver sa mémoire, plus pour éviter les blâmes de l'éditeur que pour sauver sa mémoire. On pense aux héritiers de Pascal et aux abominables éditions Perrier des pensées, vous savez, truquées, arrangées, caviardées, épouillées de ce qui pouvait paraître malsonnant pour les oreilles pies, ou prétendu tel. Alors on a eu un texte de Pascal qui, hélas, a fait autorité pendant longtemps, et qui a justifié d'ailleurs les fausses querelles de Voltaire. Eh bien, pour Origène, on a eu un peu la même chose, des textes tronqués, truqués, édulcorés pour faire passer une partie du message au moins. Mais c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Et puis, on a tout repris, lentement. On a refait des éditions savantes, dignes de foi. On a refait toutes les traductions, les anglais, les allemands, et finalement, les français, avec les sources chrétiennes, qui nous redonnent enfin, un texte sérieux, digne de foi, d'Origène. Et puis des travaux qui ont enfin redonné le vrai visage d'Origène, des travaux considérables de Bardi, bien sûr, du cardinal Danielou, de Nautin et du père Amann. Et comme le diable porte Pierre, Origène doit une part de sa nouvelle popularité à la réédition par le professeur Rougier du pamphlet antichrétien qu'Origène avait combattu, le pamphlet de Cels. Vous savez, ce discours véritable qui était un pamphlet assez bien troussé d'ailleurs, rempli de calomnies venimeuses contre la religion chrétienne. Comme Origène l'avait réfuté, à la suite du professeur Rougier, on a ressorti Origène pour voir si l'anti-Cels était valable, et on s'est aperçu, ô merveille, que cette partie-là, parmi d'autres, de l'œuvre d'Origène était toujours jeune, toujours parfaitement lisible, et un antidote immédiat et merveilleux contre le vieux pamphlet de Cels. Origène l'avait réfuté à l'époque, et rien d'important ne peut être ajouté à l'œuvre d'Origène contre Cels. Seulement voilà, le professeur Rougier et le livre de Cels, édité grâce à lui, est partout répandu, dans des éditions bon marché, flatteuses, en vente dans toutes les bonnes librairies, jusque dans les petites éditions de Robert Laffont, vous savez, les pamphlets de poche, en compagnie de Paul-Louis Courier, de toutes sortes de petits textes amusants, flatteurs, pour quelques sous. Vous pouvez vous procurer le discours véritable de Cels. Quant au contre-Cels d'Origène, qui rétablit les choses, il reste prisonnier d'une très belle édition, bilingue, un monument de science, 5 volumes de ce format, mais il faut dépenser à peu près 100 000 francs anciens, excusez-moi, je compte comme ça, pour avoir l'antidote de ce petit pamphlet que pour quelques sous vous pouvez vous procurer d'autre part. C'est... Enfin, ça vaut la peine. Mais il faut pouvoir. Et puis il faut reconnaître que rien que les deux premiers livres du contre-Cels se sont édités là, bien sûr, qu'un grand luxe d'annotation, de notes, un appareil critique, une introduction. L'introduction occupe à elle toute seule le dernier tome de l'édition des sources chrétiennes, une petite introduction de 500 pages, qui est un monument de méthode scientifique. Mais on a depuis longtemps lu et assimilé le discours véritable de Cels avant d'avoir pu acheter et pu venir à bout soir après soir de la lecture d'Origène. Origène et nous. Eh bien, il reste que Origène, malgré cette opportunité qu'il doit à nos ennemis, opportunité dont il ne profite guère, Origène ne peut être que loin de nous, car son œuvre, son caractère, son ton n'en feront jamais un auteur cher au cœur, un auteur enthousiasmant, un de ces auteurs qui séduisent et qui font que on achète, on lit Saint-Augustin, Clément d'Alexandrie, Saint-Basile, Grégoire de Nazianze et bien d'autres qui sont avec qui on est de plein pied, de plein cœur. Origène, vous allez voir, a contre lui d'être un savant intègre, rigoureux, et comme toutes les œuvres très scientifiques, n'a pas eu le temps de sacrifier à l'agrément littéraire. Il était déjà ardu pour ses contemporains. De plus, la plupart des œuvres qui ont été conservées sont des œuvres d'exégèse. Et en ce domaine, sa méthode de lecture des textes sacrés est très opposé à nos légitimes exigences, sans pour autant être sans valeur. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. L'écorce est rugueuse, le fruit a un goût étrange, mais reste qu'il faut s'en approcher, parce que c'est absolument désolant pour la culture d'un chrétien de ne pas connaître celui qui a été un grand défenseur de la foi et celui sans qui, on peut le dire, la théologie, et l'exégèse en tout cas, notre théologie et notre exégèse n'auraient jamais été ce qu'elles sont. Le père de la foi, le père de l'exégèse, a été recouvert par quelques brindilles, quelques patines qui font qu'il est difficile à atteindre. Mais il existe, et je voudrais ce soir que vous plongiez avec moi aux profondeurs moyennes où on va le retrouver. Peut-on aimer Monterlin? Comment ne pas aimer Clément d'Alexandrie? Il faut aimer. Écoutez, appréciez le grand docteur de la foi qu'a été Origène. Qui fut Origène? Nous allons essayer d'approcher déjà en le suivant dans son existence. Bien, c'est un genre d'homme qui fait peu de confidence sur soi-même. Pudeur et puis préoccupation didactique. Et puis c'est un savant. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme chaleureux, ce n'est pas un écrivain. Et par conséquent, il n'a pas l'occasion ni le goût de se livrer. Le genre des œuvres qu'il écrit ne comporte pas l'occasion d'apercevoir non plus l'auteur. Ce sont des textes scientifiques, des textes d'analyse, des textes où l'objectivité, ou s'il y a une émotion, elle est d'ordre intellectuel ou de la foi, ne fait pas intervenir tellement la personnalité de l'auteur. Nous n'avons naturellement pas de portrait physique, pas de portrait psychologique. Si nous l'apercevons, c'est grâce, mais je vous le dirai ça tout à l'heure, à un événement tout à fait fortuit qui nous permet tout de même, par une sorte de saignée, d'entrer presque jusqu'à son cœur. Mais ce n'est pas lui qui nous a donné accès. On lit, on consulte Origène, mais on n'a jamais déjeuné avec lui. D'abord parce que chez lui, il n'y a pas de quoi manger. Il est tellement pauvre, tellement ascétique. Il n'aurait pas pu inviter quelqu'un. Nous avons la chance, tout de même, parce que je vais quand même vous dire quelque chose ce soir, après tout ce aspect d'abord un tout petit peu négatif et pessimiste. Nous avons la chance de posséder deux documents presque émouvants, riches de détails, par des gens qui ont entendu parler de lui ou qui l'ont un jour approché. Un livre entier de cet Eusèbe de Césarée, à qui nous devons des quantités de choses. C'était un écrivain abondant, facile, sans génie, mais qui a ramassé et livré beaucoup de renseignements, un de ces compilateurs, de ces historiens qui permettent dans une œuvre de valeur médiocre, de trouver des quantités de renseignements beaucoup plus précieux que l'œuvre elle-même. C'est un excipient, comme on dit, je crois, en pharmacie. Les bons produits sont rares dedans, mais précieux. Et il y a le liant Eusèbe. Eusèbe a écrit une histoire ecclésiastique et une préparation évangélique. C'est surtout dans son histoire ecclésiastique, dans le livre 6 de l'histoire ecclésiastique, qu'il nous donne beaucoup de renseignements sur Origène. Je le lirai d'ailleurs tout à l'heure, textuellement très souvent. Et puis nous avons mieux. Nous avons le discours de remerciement que lui a consacré un de ses anciens élèves, devenu entre ses mains un tout autre homme et un grand homme et un saint homme. Grégoire, dit le thaumaturge, a laissé en le quittant un discours de remerciement qui est le portrait de son maître. Et vous verrez tout à l'heure, c'est tout à fait séduisant, charmant, fascinant. Vous partirez enthousiasmé par Origène. Quelques mots sur son enfance et sa jeunesse, jusqu'à 17 ans. Il est né à Alexandrie, en l'an 185. C'était le fils aîné d'un monsieur qui s'appelait Léonidas, je vous rappelle quelque chose, qui était un bourgeois fortuné, cultivé d'Alexandrie, un membre actif de la communauté chrétienne. L'ascendance d'Origène est donc grecque par son père, c'est évident quand on s'appelle Léonidas, et qu'on habite l'Alexandrie hellénistique. Mais d'autre part, son nom révèle bien aussi sa patrie, car Origène, ça veut bien dire le fils d'Horus. Vraiment, c'est un nom assez commun en Égypte, mais vous voyez, il porte bien la marque du pays. Léonidas avait mis au monde 7 garçons. On ne parle pas des filles, il ne semble pas qu'il y en ait eu. Heureuse famille qui avait eu 7 garçons. Origène était l'aîné, il avait été baptisé très tôt, et il avait vécu dans une atmosphère familiale résolument et lucidement chrétienne. Attention, nous sommes en 185, par conséquent, il est relativement rare qu'un chrétien, à ce moment-là, naisse dans une famille chrétienne. Généralement, les conversions sont le fait, comme le nom l'indique, de réflexion, de rencontre, d'une conversion au christianisme. Mais les chrétiens d'origine, nés, baptisés très tôt, dans un milieu intensément et foncièrement chrétien, sont rares. Ça a été la chance d'Origène. Il a reçu l'instruction profane que l'on recevait dans son milieu, et à Alexandrie, qui était la capitale intellectuelle du monde hellénistique, grammairien, pédagogue, recteur, il a été formé par son père à chrétienne, par son père lui-même. C'était un enfant très doué, nous dirions maintenant surdoué. Origène avait jeté de solides fondements dans les sciences de la foi en s'exerçant dès son enfance au sein de l'Écriture. Il s'y était appliqué laborieusement et d'une façon peu ordinaire, car son père, non content de lui faire parcourir le cycle des études ordinaires, n'avait pas tenu pour un souci secondaire de l'initier aux Écritures. C'est un signe un petit peu lourd, un petit peu rabiscoté, sans poulet, c'est Eusèbe. Mais on dit, on a des choses intéressantes. Avant même de l'intéresser aux disciplines helléniques, il avait voulu en priorité l'exercer aux études sacrées. Chaque jour, il exigeait de lui des récitations, il prenait par cœur les saintes écritures, et des comptes rendus de lecture sacrée. Tout cela ne paraissait pas désagréable au jeune Origène, bien au contraire, il y travaillait avec un zèle excessif. Connaître le sens premier et obvie des Écritures ne le satisfaisait pas. Il y cherchait déjà, dès ce moment-là, quelque chose de plus, décidé à voir et à découvrir quelque chose de plus profond. Il mettait ainsi son père dans l'embarras, requérant de lui qu'il lui indique le dessein de l'Écriture divinement inspirée. Extérieurement, son père faisait mine de le réprimander, lui conseillant de ne rien rechercher qui fût au-dessus de son âge ou qui dépassât le sens évident. Mais, au fond de lui-même, il en était très content. Remercier Dieu, la cause de tous les biens, d'avoir daigné faire de lui le père d'un tel enfant. Quand celui-ci dormait, et cette histoire est partie de la légende dorée, de sa prise à un jour, quand celui-ci dormait, son père, dit-on, s'arrêtait souvent près de lui, découvrait sa poitrine comme si un esprit divin l'habitait intimement et l'embrassait avec respect. Bref, il s'estimait heureux de la belle postérité qu'il avait. Un père heureux. Voilà, avec quelques autres traits analogues, ce que l'on rapporte sur l'enfance d'Origène. Cette atmosphère familiale merveilleuse, haute culture intellectuelle, bon milieu social, éducation religieuse, vous voyez, menée avec quelle ferveur, quel sérieux, quel enthousiasme, a duré pendant à peu près 17 ans. Mais nous arrivons au règne de Septime Sévère, et l'empereur s'arrête en Syrie. Il revenait d'une expédition contre les Parthes. Et là, il est agacé, effrayé par le nombre et l'esprit séditieux des peuplades juives. Il promulgue un décret au terme duquel il est désormais interdit de faire, comme il dit, dit le décret, des juifs ou des chrétiens. Interdit d'en faire. Donc toutes les écoles sont supprimées. On va plus loin. Et ceux qui sont capables de faire des chrétiens, les maîtres, les dignitaires ecclésiastiques, les ecclésiastiques, sont poursuivis. Alexandrie, c'est la catastrophe. Car à Alexandrie, il y a la première institution publique d'enseignement chrétien, la première université chrétienne qu'on appelle le Didascalée. Et on formait là, par toutes sortes de cours de catéchèse, ou de catéchisme, ou d'enseignement de toutes sortes, d'excellents chrétiens. C'est là que Léonidas avait appris sa foi. Les responsables sont arrêtés ou en fuite. Quand Sévère, dit Eusèbe, déclencha la persécution contre les églises, c'est en tout lieu que furent éclatants les témoignages rendus par les athlètes de la foi. C'est ainsi qu'on appelait les pré-martyrs, les athlètes de la foi. De toute l'Égypte et de la Thébaïde, on y envoyait, comme sur un immense stade, les athlètes de Dieu. Et c'est là qu'ils reçurent de Dieu leur couronne, attendez bien la couronne du martyr, et que ce n'est pas du tout un ton de deuil, c'est un ton d'enthousiasme sportif. Nous ne voyons plus les choses comme ça, mais qui a la foi? Et c'est là qu'ils reçurent de Dieu leur couronne après avoir supporté avec un grand courage toute espèce de supplice et de genre de mort. Et parmi les victimes de cette persécution figure Léonidas, parmi les gens qu'on arrête. Et voici comment, là aussi c'est un peu la légende dorée d'Origène, et c'est un texte célèbre que je vous relis là. Mais il est tellement beau. L'incendie de la persécution s'étendait, des milliers de fidèles avaient ceint la couronne du martyr. Une telle passion du martyr s'empare alors de l'âme d'Origène, encore bien jeune, qu'aller au-devant du danger et bondir dans la lutte était un plaisir. Il s'en fallut de peu que le terme de sa vie ne fût tout proche de lui. La divine et céleste providence, cependant, en vue de son utilité pour un plus grand nombre, se servit de sa mère pour faire obstacle à son ardeur. Je n'aime pas beaucoup ce style très... Saint-Thérèse de Lisieux dans ses plus mauvais moments. Vous savez, non, c'est ce côté ecclésiastique de Zeb, mais enfin, c'est le texte, c'est très beau. Considération les dispositions maternelles qu'elle avait pour lui. Ça veut dire qu'il ne va pas faire cette peine à ta mère. L'arrestation et l'emprisonnement de son père ne firent qu'accroître sa résolution. Il fut alors saisi tout entier par le désir du martyr, ce n'est qu'en cachant tous ses vêtements qu'elle le contraignit à rester à la maison. Lui alors, puisqu'il lui était plus possible de rien faire d'autre, et que son désir, qui grandissait sans commune mesure avec son âge, envoya une lettre à son père. Ce n'était d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre de la lettre d'Origène, fils Léonidas, qu'une exhortation de Marie, qui encourageait son père, l'écrivant expressément, garde-toi de changer ta vie à cause de toi. Soutien de famille. Bon, on a fait les années 203-220. Là, à nourrir, tout simplement. Il se met au travail. Et puis, il a cherché du travail, il savait faire quelque chose, il allait mettre en usage l'enseignement de son père. Ou l'équivalent du temps. Alors il est ici, il s'est proposé comme instituteur, il a trouvé un petit travail d'instituteur, il a enseigné la grammaire, il a enseigné le rudiment aux gamins, comme cela nous arrive souvent, n'est-ce pas, pour des raisons diverses, pas aussi glorieuses, mais quelquefois aussi urgentes. Et la fortune de son père ayant été confisquée, comme la loi le prévoyait pour tous les condamnés à mort, par les agents du trésor impérial, se trouva avec les siens dans le besoin des choses nécessaires pour vivre. Alors, comme il avait été initié par son père aux enseignements des Grecs, quand celui-ci eut disparu, toujours au maître, il se livra tout entier et ardemment à l'exercice des belles lettres. Et il acquit très vite, après la mort de son père, une préparation suffisante dans les connaissances grammaticales, si bien qu'en continuant à y progresser, il put faire face, et d'une manière plus que suffisante pour son âge, aux nécessités financières. Mais la maison a été confisquée, si bien que la famille est dispersée. Nous ne savons pas, bien sûr, ce qu'est devenu Madame Léonidas et les petits frères, mais pour le jeune qui parle d'Origène, le grand. Mais Origène a trouvé refuge, je dis bien refuge, c'est d'une modernité étonnante, dans cette famille, c'est ce petit détail de la famille familière. Il a cherché, comme tout son mission de l'étudiant, pour avoir beaucoup d'argent, de renvoyer l'attention chez les soeurs de ceci ou chez Madame la fille. Alors, on cherche une piole chez quelqu'un qui a quelques chambres pour étudiants, vous savez, c'est bien. Et là, il a trouvé une femme. Il semble y avoir de jouer. Mais, troisième anecdote typique de l'univers de lui-même, c'est un garçon très bon pour cela. Après, il suffit pour se trouver ce qu'il fait, c'est très bien. Mais il faut chez cette dame, je donne la parole à l'autre, il trouve un accueil et tranquillité auprès d'une femme qui suffit, c'est très bien. Malheureusement, elle entourait de considération un hérétique mondial. Vous êtes alors à l'Alexandrie. Il était né à Antioche et cette femme le gardait avec elle, l'entourant de tous ses soins pour qu'il s'avait. Mais Origène, qui par la force des choses trouvait dans l'obligation de coexister avec lui, lui donna dès ce moment une preuve éclatante de son orthodoxie dans la foi. Parce qu'il était d'Isère, une foule importante s'assemblait autour de Paul. Paul, c'est l'hérétique qui était logé chez cette dame. Il y avait là non seulement des hérétiques, mais des fidèles de chez nous qui venaient écouter ce jeune homme éloquent. Origène, lui, refusa toujours de s'unir à lui pour prier. Intercommunion avec les hérétiques, il ne connaît pas. Il aura, dès son enfance, conservé la règle de l'Église et éprouvé de l'horreur, c'est le mot que lui-même emploiera, pour les doctrines hérétiques. Bon, il a 17 ans, c'est un gamin, il est dans une situation difficile, vous voyez qu'il a déjà un jugement dont son père peut être fier. Et l'incendie, la persécution se fait, et Léonidas est instituteur. Mais vous devinez bien qu'il n'est pas simplement régent de petits grimauds et qu'il va s'appliquer à enseigner autre chose que la grammaire aux enfants, de ses hauts puéros grammaticales. Il leur enseigne aussi la vraie religion. Avec beaucoup d'activité, beaucoup de zèle, beaucoup d'éloquence, si bien que autour de lui, on se groupe, le didascalé ayant été dispersé, on se groupe pour écouter la bonne parole. Et les gens qui n'avaient pas été chassés par la messe de la persécution, qui commençaient à se regrouper, viennent écouter ce jeune prodige. Et c'est alors que quelques païens, entendant dire que ce jeune instituteur enseignait éloquemment la bonne parole, viennent l'entendre. Et le premier fut Plutarque. Non, ce n'est pas le grand Plutarque, il s'appelait aussi Plutarque comme Léonidas, ce sont des noms. Qui, après une vie excellente, fut honoré du martyr pour Dieu. Le second était le frère de Plutarque, Héraclès, et il donnera lui aussi un très bel exemple de vie philosophique et ascétique, et sera évêque d'Alexandrie, après la mort de Plutarque. Vous voyez qu'il attire non seulement des gens qui veulent se perfectionner, mais des païens qui veulent se convertir. Il a 18 ans. Si bien que pour reconstituer le didascalé, c'est-à-dire l'université catholique, qui était dévastée, pour la reconstituer, on lui confie la direction et la charge de reconstituer les universités à 18 ans. Ce n'était qu'une trêve. Un nouveau préfet est nommé à Alexandrie, un certain Aquila, qui recommence à ses livres et remet les décrets de persécution. De nouveau, on arrête, de nouveau, on torture, et Origène, comme il l'aurait fait auprès de son père si sa maman ne voulait se sortir maintenant, va encourager les athlètes de la foi. De ses chaleureuses exhortations, c'est dangereux, c'est risqué, puisque évidemment, il touche son entrée de sortir, d'aller les voir et de se dévoiler comme chrétien. Et tout le monde sait bien, à Alexandrie, qui il est. Je lis aux amis. Lors des persécutions qui eurent lieu sous Aquila, gouverneur d'Alexandrie et d'Égypte, son nom devint célèbre chez tous ceux que stimulait la foi à cause de l'accueil et du zèle qu'il montrait à l'égard de tous les martyrs connus ou inconnus. En effet, il ne se contentait pas de les assister lorsqu'ils étaient en prison, ni même pendant leur interrogatoire, jusqu'au verdict, mais encore après le verdict, il demeurait à leur côté sur le chemin qui menait les martyrs à la mort. Il s'exposait aussi ainsi au danger avec la plus grande hardiesse. Plus d'une fois, tandis qu'il s'avançait ainsi courageusement et qu'il embrassait les martyrs, ce qui tenait de la témérité, le peuple païen qui les entourait entra en fureur et fut à deux doigts de se précipiter sur lui. Chaque fois, pourtant, la main secourable de Dieu lui permit miraculeusement de s'échapper. Cette même faveur divine et céleste le protégea en mille et mille circonstances. Il est absolument impossible de dire combien de fois il fut ainsi protégé, alors qu'il s'exposait à toutes les embûches avec son ardeur, sa hardiesse excessive en faveur de la doctrine du Christ. La lutte menée contre lui par les incroyants était telle qu'il se massait devant sa maison et y plaçait des soldats à cause du grand nombre de ceux qui venaient recevoir son enseignement sur la foi sacrée. C'est un véritable défi quotidien. De jour en jour, la persécution contre lui s'enflammait davantage. La ville ne pouvait plus contenir et il passait de maison en maison, chassé de partout à cause de la foule de ceux qu'il faisait accéder à la doctrine chrétienne. Il se cachait pour échapper à la persécution, mais comme tous ses disciples le suivaient de maison en maison, il est évident que cette clandestinité paraît assez relative. On disait de lui, telle est sa parole, telle est sa conduite, telle est sa conduite, telle est sa parole, et il le montrait bien. Par là surtout, par la puissance de Dieu qu'il soulevait, il attirait à lui des milliers de gens. Il y a là une sorte de légende dorée qui s'attache. Il est évident que le bon sens s'étonne devant cette incrédulité. Non, c'est de l'héroïsme. Quand on écrit à son père ce qu'il lui a écrit, il est normal qu'on fasse autant à sa manière. Mais cette impunité, cette protection, je veux dire une protection divine, elle n'est pas expliquée. Et la popularité qu'il a acquise dans ces circonstances est telle que ce nouveau maître du didascalé, une fois libéré de ses contraintes relatives que lui imposait la clandestinité mitigée qu'il observait, a décidé, sans doute sa famille s'était débrouillée autrement, elle n'avait plus tellement besoin de lui, ça ne veut pas ce chose-là, qu'il allait pouvoir se consacrer entièrement à l'enseignement de la catéchèse. C'est pour cela qu'il était fait, c'était évident. C'est un clivage définitif. Il aurait pu revenir à ses études, il aurait pu faire autre chose, il se tourne définitivement vers l'enseignement religieux. jour et nuit, il s'y consacre dans une pauvreté évangélique. Je vous disais tout à l'heure en souriant que on n'aurait pas facilement invité à déjeuner. Eh bien, écoutez, voilà, n'est-ce pas? Quand il vit que les disciples se multipliaient autour de lui, lui qui était le seul, à qui Démétrius, le chef de l'Église, lui confiait l'école de la catéchèse de Didascalée, il jugea inconciliable l'enseignement des sciences grammaticales et l'exercice des disciplines chrétiennes. Alors, sans délai, il rompit avec l'enseignement de la grammaire, la trouvant à la fois inutile et opposée à l'enseignement chrétien. Vous voyez que de temps en temps, il y a chez Origène des points critiques. Comment peut-on estimer que la grammaire est contraire à l'enseignement chrétien? Voilà une des choses qui font que, personnellement, j'aurais jamais qu'à inviter quelqu'un qui dit des identités pareilles. Ensuite, afin de n'avoir plus besoin de l'assistance des autres, il revendit tous les ouvrages anciens qu'il avait acquis jusqu'alors. Tout bon étudiant, c'est quand il était une petite bibliothèque, qui était bibliophile, il avait des ouvrages anciens et il les a vendus pour continuer et ne dépendre de personne. Cela est héroïque et admirable. Il se contenta désormais des 4 boles quotidiennes que lui allouait son acquéreur. Ce qui signifie, n'est-ce pas, que la personne qui lui avait acheté ses livres le payait lentement et lui versait, en échange de l'acquisition de bibliothèque, 4 vols par jour, ce qui lui suffisait un livre très peu. Je ne sais pas combien ça fait en France à la dure, mais c'est très, très peu de gens. Pour l'instant, donc, Origène accomplit à Alexandrie l'œuvre de l'enseignement chrétien pour tous ceux, sans distinction, qui venaient à lui, nuit et jour, et sacrifiaient sans hésitation tout son loisir aux disciplines sacrées et à ceux qui le fréquentaient. Mais on ne passe pas si vite au rang de maître. Regardez la carrière qu'il a parcourue jusque-là. Bon élève, bon fils, catéchiste dévoué, instituteur apostolique. Mais il n'a pas fait d'études. Et de là, quand se présentent devant lui des gens d'âge, des gens de qualité, des gens avancés dans les sciences humaines et philosophiques, et qui lui demandent un enseignement, il faut rendre compte qu'il n'est pas de temps. Alors très exactement, très logiquement et très humblement, il fait ça va citer, vous ne direz maintenant, c'est mis à l'étude des grands maîtres de la philosophie pour acquérir bien vite ce qui lui manque. Tout en continuant d'ailleurs à assurer son apostolat. Donc il dit bien, auprès d'un grand maître néoplatonicien qui enseignait à ce moment-là à Alexandrie, qui s'appelait Ammonius Saccas, et en même temps, catéchète. Et nous avons sur lui le témoignage d'un de ses camarades étudiants, qui sera plus tard à son tour célèbre, mais qui restera dans le paganisme, et qui, c'est Porphyre, dira plus tard, mais Origène, j'ai été en classe avec lui, je me rappelle très bien, souvenir d'enfance, camaraderie, de Porphyre. Moi aussi, dit-il, j'ai rencontré dans ma jeunesse cet Origène. Sa réputation était grande. Sa célébrité l'est encore aujourd'hui, à cause des écrits qu'il a laissés. Sa gloire s'est grandement répandue chez les chrétiens. Il fut en effet auditeur d'Ammonius, et il acquit de son maître compétence et habileté. Origène était grec, élevé dans les études grecques, et il est allé échouer sur l'audace barbare. En s'y portant, il a trafiqué de soi-même et de ses capacités pour les études. Dans sa conduite, il a vécu en chrétien, contrairement à nos lois. Mais en ce qui concerne la réflexion sur les choses et sur Dieu, il a hellénisé. Il n'a fait que transporter les opinions des Grecs dans des fables étrangères. Entendez par là qu'il a fait des synthèses entre la philosophie des Grecs, qui était là, celle qu'il apprenait, et la nouvelle religion. Il vivait toujours avec Platon. Il fréquentait les écrits de Numénius, de Cronius, d'Apollophane, de Longin, de Moderatus, de Nicomaque, de grands écrivains, et des hommes célèbres parmi les pythagoriciens. Il utilisait aussi les livres du stoïcien Kérémon et de Cornutus. Il apprit là, auprès d'eux, l'interprétation allégorique des mystères grecs, qu'il appliqua ensuite aux écritures juives, ce point est très important pour expliquer son exégèse. Origène va inaugurer un genre de vie rigoureusement conforme à la lettre, aux préceptes et aux conseils de l'Évangile. Et c'est à son imitation que plus tard, beaucoup plus tard, les moines des siècles suivants adopteront un tel mode de vie. C'est pas moine, mais voyez plutôt. Pendant de très nombreuses années, il adopta la manière de vivre que voici. Il retranchait tout ce qui pouvait nourrir en lui des passions de jeunesse. Il accomplissait toute la journée de grands efforts ascétiques et passait la plus grande partie de la nuit à étudier les Saintes Écritures. Il s'adonnait ainsi à la vie la plus philosophique possible, s'imposant la gymnastique du jeûne, mesurant strictement son temps de sommeil. Et encore, ce sommeil, il ne le prenait même pas sur une couverture, mais à même le sol. Il pensait qu'il fallait par-dessus tout observer les paroles évangéliques du Sauveur, ne pas porter de vêtements, ne pas utiliser de sandales, ne pas passer son temps à se soucier de l'avenir. Il s'acharnait avec une ardeur qui n'était pas de son âge, à vivre dans le froid, le dénuement, atteignant ainsi le terme de la plus extrême pauvreté. Cela ne manquait pas de frapper très vivement les gens de son entourage. Beaucoup d'entre eux s'en attristaient, le priaient d'accepter un peu de ce qu'il possédait. Ils le voyaient entreprendre et supporter tant de choses pour l'enseignement divin. Mais lui ne relâchait rien de son austérité. Plusieurs années durant, il marcha, dit-on, sans mettre de sandales, et pendant plus longtemps encore, il s'abstint de boire du vin et de prendre aucune autre nourriture que celle qui lui était indispensable. Au bout du compte, il finit par tomber malade de la poitrine. C'est très beau. C'est très beau. Mais, vous voyez, il y a dans le texte que je viens de vous lire, le verbe, et peut-être dans le fond de votre esprit, l'idée que, au fond, il y a deux moyens d'accéder à ce dénouement de l'héroïque. Il y a l'amour du Christ sur la croix, celui des grands mystiques, celui des moines. Et puis, et ceci n'est pas une malice de ma part, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il y a aussi la conformité un peu, oserais-je dire le mot, un petit peu naïf, un très grand intellectuel qui voit écrit qu'il faut ne pas avoir des vêtements, qu'il faut marcher pieds nus, qu'il ne faut pas équilibrer. Mais qu'elle fait il ne se pose pas de questions, c'est écrit, on le fait, sans savoir si c'est écrit d'une manière symbolique, si c'est une indication, si c'est une... C'est l'exécution pure et simple du commandement écrit sans faire la distinction entre les commandements et les conseils. Et vous trouvez peut-être que je suis bien sévère et que je suis bien difficile. Attendez la suite, vous allez voir pourquoi je me permets de dire qu'il y a peut-être là un peu de naïveté chez un intellectuel d'une immense bonne volonté. Je suis obligé de vous lire la suite, et je ne peux mieux faire que d'utiliser le texte du pudique Eusèbe. Bon, pardon, mais c'est historique. Comme Origène accomplissait l'œuvre de la catéchèse à Alexandrie, il accomplit une action qui est une preuve incontestable d'inexpérience et de juvénilité, mais aussi de foi et de tempérance. Attendez par là, de maîtrise de ses passions. Les paroles, il y a des eunuques qui se sont châtrés eux-mêmes à cause du royaume des cieux, il les entendit d'une manière toute simple et toute juvénile. Il le fit peut-être pour appliquer strictement la parole du Sauveur, peut-être aussi parce que, jeune encore, il avait à parler de Dieu non seulement à des hommes mais aussi à des femmes. Désireux d'ôter aux infidèles tout prétexte à honteuse calomnie, il se sentit sans doute poussé à réaliser concrètement la parole du Sauveur. Il eut soin toutefois que son action demeura ignorée de la plupart des disciples qui l'entouraient. Bon, malgré tout ce qu'il fit, il ne lui fut pas possible de dissimuler complètement une pareille action. Plus tard, il la révéla à Démétrius, qui était en tant que chef de la chrétienté du pays. Celui-ci admira l'audace d'Origène sans réticence, il approuva son zèle sincère pour la foi, l'exhorta à être courageux et l'incita à se donner davantage encore désormais au travail de la catéchèse. Telle fut alors l'attitude de Démétrius. Je n'insisterai pas, mais cette prise à la lettre d'un texte qui est évidemment un texte métaphorique, le mot n'était pas très exact, dans le texte sacré, laisse entendre que pour un maître, pour un exégète, c'est naïf, pour rester poli, cet intellectuel manque un tout petit peu du sens des réalités et du vrai cheminement du surnaturel dans les voies naturelles. Et si j'ose dire, un tel raccourci est un sens interdit. Et voilà comment on ne devient jamais un saint. Ce jour-là, il a perdu aussi son auréole. Quant à Démétrius, l'évêque, eh bien disons qu'il avait le sens de l'irréparable et de la déploration inutile. À quoi bon faire des reproches à ce pauvre jeune homme? Tout cela ne l'empêche pas d'aller à Rome en 212, d'y rencontrer un célèbre théologien romain, Hippolyte. Eusèbe nous le dit, il rentre à Alexandrie et il organise, suivant un mode tout à fait moderne, l'enseignement, le plan d'études de son didascalé. Vous allez voir, c'est un plan d'études tout à fait contemporain. Lorsqu'il s'aperçut qu'il ne pouvait plus faire face en même temps à l'étude approfondie, à la recherche et à l'explication des Écritures, d'une part, et à s'acquitter d'autre part de la catéchèse de ceux qui venaient à lui et qui ne lui laissaient même plus le temps de respirer, parce qu'il se succédait en son école depuis l'aurore jusqu'à la nuit, il divisa toute cette multitude. Heureux l'Institut Saint-Pédis, si jour et nuit, sans arrêt, on venait assiéger M. le Visiteur, puis encore. Ayant porté son choix sur Héraclas, qui était un fervent chrétien, homme très disert et non dépourvu de philosophie, il en fit son collègue dans la catéchèse et lui confia la première initiation, le cours élémentaire, de ceux qui venaient de débuter. Il gardait pour lui l'instruction des plus avancés et la recherche. Les moins bien doués, c'était le plus grand nombre, il les menait aux études générales, estimant que pour eux, elles seraient fort utiles comme propédeutique, le mot est déjà utilisé, à la connaissance des Écritures. Lui-même, d'ailleurs, tenait pour une nécessité personnelle de s'exercer en ces disciplines profanes et en philosophie. Quant à ceux qu'il voyait naturellement bien doués, il les introduisait dans les disciplines philosophiques, géométrie, arithmétique et autres enseignements préliminaires. Puis il les initiait aux différentes sectes et courants qui existent chez les philosophes. Il leur expliquait leurs écrits, commentait et examinait cela en détail. Cette même année 212, il rencontre à Antioche un certain Ambroise. Décidément, ses prénoms sont tous bien connus, ce n'est pas du tout saint Ambroise. Cet Ambroise, qui a rencontré à Antioche, avait d'importantes fonctions politiques à Alexandrie. Il était gnostique. Origène le convertit à la vraie foi, et en reconnaissance, Ambroise met à sa disposition, c'était un homme riche et un homme d'organisation du travail administratif et bureaucratique. Alors il a fait profiter Origène de ses organigrammes et de cette bureautique qu'il pratiquait dans les établissements publics. Il a mis à sa disposition un secrétariat important à faire rêver non seulement l'abbé Simoulin, mais un PDG de société multinationale. Sept secrétaires à la disposition du maître, des tachygraphes, c'est-à-dire des sténographes. Nous sommes presque à l'enregistrement. Mais, en échange, cet Ambroise, qui est doué d'un appétit intellectuel insatiable, le force à travailler à un rythme terrible. Même Origène, qui je pense ne vous a pas paru jusqu'ici particulièrement oisif, flâneur et amateur de loisirs, Origène va s'essouffler. Voici ce que dit Eusèbe. En ce temps-là, Ambroise, qui avait, bon, fut converti, plus de 7 tachygraphes se tenaient près d'Origène quand il dictait, se relayant les uns les autres à intervalles réguliers. Vous savez, Napoléon, le secrétariat de la Chambre des députés, on les voit comme une noria sans arrêt, se précipite, c'est ça. Il avait autant de copistes et quelques jeunes filles exerçaient à la calligraphie. Ambroise subvenait abondamment à la subsistance de tout ce monde. Bien plus, il mettait une indicible ardeur et un véritable zèle à étudier les oracles de Dieu. C'est à cause de cela qu'il excitait Origène dans la composition de ses commentaires. Lui qui m'estime laborieux et assoiffé des paroles de Dieu, écrira Origène au pape Fabien, me confond par son propre zèle au travail et son amour pour les choses sacrées. Il m'a dépassé, au point que je risque de ne pas répondre à toutes ses propositions. Il ne m'est permis de manger qu'en devisant. Il ne m'est pas permis de me promener après le repas et de donner un peu de repos au corps. Même à ces heures-là, nous sommes astreints au travail littéraire et à la correction des épreuves. Pas davantage, il ne nous est permis de dormir la nuit entière pour la santé du corps, car le travail littéraire se poursuit fort avant dans la nuit. Et je laisse de dire ce que nous faisons de l'aurore jusqu'à la 9e et parfois la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures d'après-midi, car tous ceux qui travaillent consacrent ces moments-là à l'étude de la parole de Dieu et au lecteur. Stakhanoviste du travail exégétique, intellectuel. Ici se place une très grande date dans l'histoire du christianisme, 213. Origène commence l'établissement, pour la première fois, d'un texte authentique de la Bible. On avait les versions, on avait les textes, mais qu'est-ce que ça valait exactement? Le texte était-il rigoureusement conforme à l'original? Notre hantise, n'est-ce pas? À nous qui étudions les textes profanes ou sacrés, est-ce le vrai texte? Eh bien, Origène est le premier, non seulement en avoir eu l'inquiétude, mais à réaliser la première édition critique avec l'établissement, le premier exercice, si vous voulez, de critique textuelle à volonté scientifique. C'est un travail énorme qui va durer 30 ans. Il le commence à ce moment-là. Le principe est très simple, mais la réalisation considérable, surtout si on tient compte des éditions de l'édition de l'époque et de la reproduction qui d'ailleurs n'a pas eu lieu. C'était un exemplaire unique, un monument qui a bêtement disparu, comme je vous disais tout à l'heure. Il n'empêche que c'est lui qui l'a fait pour la première fois. Il a transcrit 6 versions de manière synoptique, vers par vers, verset par verset, en signalant, chaque verset, n'est-ce pas, dans, il y a 6 colonnes, et le même verset était répété 6 fois dans les versions différentes. Et il marquait par des signes critiques les variantes. Toute l'exégèse postérieure jusqu'à nous sera tributaire de son travail. Et surtout, cette idée de rechercher le texte authentique par comparaison des copies, étude des versions et analyse des différences. Cet ouvrage monumental s'appelait Les Exaples. H-E-X-A-P-L-E-S, hexagonal, n'est-ce pas, 6. Le texte des 6 versions, le même texte en 6 exemplaires. Il s'est procuré des traductions lointaines, il est allé les chercher, il les a fait venir, il les a copiées, il les a étudiées. Colliger, c'est un travail considérable et qui, surtout, si vous voulez, dénote un souci de ne pas commenter un texte douteux et de savoir exactement d'abord ce qu'a dit le Seigneur, ce qu'a dit Dieu, l'Écriture inspirée, et ensuite ce qu'on en peut dire à coup sûr. Quelques voyages en Palestine, en Arabie, et éclate à Alexandrie une guerre. Cette guerre, en fait, c'est une émeute contre l'empereur Caracalla. À Alexandrie, ces choses-là arrivent. La répression est très dure. On crée déjà un mur à travers la ville entre le côté des révoltés un peu bouillonnants et les quartiers impériaux pour qu'ils restent à l'abri. Et naturellement, dans ces cas-là, il faut toujours des responsables. On n'en trouve pas. Mais il en faut, alors on cherche dans les catégories suspectes. Et parmi les catégories éminemment suspectes dans ce genre d'incidents, de tumultes et de confusions, eh bien, il y a les juifs, il y a les chrétiens qui sont encore assimilés, il y a les communautés considérées comme suspectes. Autrement dit, tout l'état-major de la didascalie, de l'établissement d'origine, prudemment doit s'écarter et s'en aller à Jérusalem et à Césarée. Là, Origène est reçu par d'anciens élèves, des amis, et la transplantation étant quand même relativement vite faite, Origène se met à parler, prié par ses anciens élèves, « Cher maître, nous allons profiter de votre passage parmi nous, parlez-nous », et il enseigne dans les églises. Dans les églises. Origène est simplement le directeur du Didascaleion, de l'Institut universitaire catholique d'Alexandrie. Parler dans les églises. Cela se faisait en Palestine, alors, et dans un certain nombre d'endroits de la chrétienté. Cela a été considéré comme abominable et scandaleux à Alexandrie. Chaque église ayant sur ce point... Ensuite, 15 ans de travail intense. Origène est professeur, enseigne et travaille. Professeur de théologie qui attire les auditeurs par milliers, et l'histoire d'un professeur heureux qui vit sans histoire est la chronique de ses publications. Et de cette époque datent les commentaires sur l'évangile de Saint Jean, j'y ferai allusion tout à l'heure, les commentaires sur la Genèse, les commentaires des 25 premiers psaumes, les commentaires des Lamentations, deux livres sur la résurrection, son grand livre sur les principes de la théologie et 10 livres de stromates, le même nom que Clément d'Alexandrie. Vous voyez qu'il ne chôme pas. D'ailleurs, Ambroise est là qui veille et qui fait payer très cher la location de son personnel. Une audience flatteuse qui, pour un professeur, fait toujours plaisir. L'impératrice mère, Julia Mammea, qui se piquait de curiosité spirituelle, voulant connaître les choses et les gens, n'ayant pas fait son choix, mais désirant se renseigner, fait venir successivement auprès d'elle les représentants de toutes les tendances religieuses de l'Empire, et fait venir, parce que c'est considéré comme le plus éminent, le porte-parole des chrétiens, c'est-à-dire Origène, qui vient à Antioche et a une audience. Et tout d'un coup, la tempête. La tempête se déclenche de nouveau. Le mot est de lui, la tempête d'Alexandrie. Première raison, Démétrius, l'évêque, c'est humain. C'est ce que dit Eusèbe, qui est évêque lui-même et qui sait de quoi il parle. Voyant Origène réussir et devenir un homme connu, illustre et célèbre à travers le monde entier, Démétrius éprouva à son endroit des sentiments humains. L'occasion de cet orage, c'est un voyage en Grèce. Et pour aller en Grèce, il fait une escale à Césarée. Il peut déjà aller. Hélas, il aurait mieux valu que la tempête le détournât de cette escale. Car ses amis, ses disciples, ses admirateurs, les évêques de Palestine, heureux de voir passer parmi eux le grand Origène, lui proposent, et lui, toujours naïf, accepte l'ordination sacerdotale. Il en était digne, oui, bien sûr. Mais au cantique de la cérémonie d'ordination a répondu à l'autre bout de la Méditerranée le long hurlement d'indignation d'évêque d'Alexandrie. C'était son directeur d'école, après tout. Il y avait eu des rapports difficiles, mais enfin quand même, c'était à lui, cet homme-là. Et voilà que là-bas, les autres, les collègues, le nomment, l'ordonnent prêtre. Et alors ça a été affreux. Et vous comprenez bien pourquoi. Parce que pour récupérer son directeur, Démétrius va se servir non pas de raison qui nous trotte quelquefois aux oreilles par le temps qui court, puis-je dire ça sans vous choquer? Mais Démétrius va s'appuyer, si j'ose dire, sur le geste imprudent et fatal qui avait mutilé Origène. Et si j'ose dire encore, il va mettre ça au grand jour. Il y avait une autre raison qui aurait pu suffire, c'est que, en effet, bien que laïque, Origène relevait de l'église d'Alexandrie. Mais, c'est surtout le reste qu'on a signalé. Vous pensez, le scoop, l'abbé qui... notre siècle n'a rien inventé. Et la vilenie, et le sordide, et l'odieux, et le dégoûtant de cette révélation, j'allais dire cette exhibition, c'est pas possible, qui a eu lieu à ce moment-là, c'est l'évêque d'Alexandrie, vous voyez, qui a fait ça. Bon. Alors de toutes parts, d'un seul coup, surgissent des objections longtemps cachées, des jalousies, des suspicions fétides qui étaient cachées jusque-là. Origène était le grand homme, personne n'osait dire quelque chose contre son prestige, sa science, il avait la réplique, il avait la science, personne n'osait rien dire. Et pour parler vulgairement, si vous me le permettez encore une fois, tout le monde s'écrasait devant le grand homme, même si quelquefois on était un peu surpris de ce qu'il disait ou pas tout à fait d'accord. Ça fermentait à la première blessure. Les petits se redressent. Il y a certes des imprudences dans l'enseignement d'Origène, des hypothèses. Je vous ai dit tout à l'heure que Origène s'était conservé le cours supérieur de théologie, mais en même temps, les choses ne sont pas à ce moment-là aussi bien séparées que de nos jours. D'ailleurs, le sont-elles tellement encore de nos jours? Il y avait, pour ce savant, cet intellectuel, la nécessité de chercher des explications, des systèmes, de faire de ce que nous appelons de la recherche. Or, la recherche suppose toujours un certain risque. Le chercheur a droit au risque, mais pas l'enseignant. Or, Origène était à la fois enseignant et chercheur. Alors, évidemment, il faisait part, peut-être imprudemment, mais rendez-vous compte du rythme de travail auquel il était soumis. C'était tous les jours qu'il fallait faire face aux exigences d'Ambroise et à un public insatiable. Alors, on suggère, on explique, quand on fait le cours ou quand on explique les choses, on peut dire, on pourrait peut-être aller par là, mais les élèves prennent des notes. Et les notes, sur les notes, il n'y a jamais les bémols, les points d'interrogation et les précautions que prend un professeur. On prend des notes. Et après, naturellement, on va porter les notes à d'autres. Et qui sont ou bienveillants ou malveillants. Et qui disent, voilà l'enseignement qui est donné. Nous sommes encore empoisonnés dans tous les milieux par ce genre de procédé. Origène en a été victime. Ça a été une des premières, ce ne sera pas la dernière. Hypothèse mal formulée, mal comprise, mal transmise, nous ne savons pas, car tout cela, hélas, a disparu. Origène se défend âprement. Et je voulais vous lire à ce sujet cet extraordinaire prologue du commentaire du cinquième livre de Saint Jean. Vous allez voir, c'est pas très bien écrit. C'est fait par des tachygraphes. Voilà le drame d'Origène aussi, n'est-ce pas ? Jamais il n'a relu une de ses œuvres. Imaginez. Il dictait. Et on prenait au vol. Il ne permettait pas toujours, mais... Alors, voilà. C'est une plainte à Ambroise. Puisque tu ne te contentes pas d'assumer en notre présence la charge de contre-maître de Dieu envers nous. Contre-maître de Dieu, c'est-à-dire celui qui s'est chargé de la... du secrétariat. et que tu prétends que même absent, nous te consacrions la plus grande partie de notre temps à toi et au travail qui t'est destiné. C'est une petite plainte, hein. Je pourrais, quant à moi, esquiver cette peine et éviter le danger que courent par la volonté de Dieu ceux qui s'adonnent à la composition d'ouvrages de théologie. Je dirais pour ma défense que, sur le conseil de l'Écriture, je renonce à multiplier les livres. Salomon dit en effet dans l'Ecclésiaste, « Mon fils, garde-toi de multiplier les livres, ça n'a pas de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. » Salomon était un sage, n'était pas un intellectuel. Pour nous, si cette parole n'avait un sens caché qui nous est encore obscur, nous aurions ouvertement transgressé ce commandement et, en ne nous gardant pas, de multiplier les livres. Pour ce qui est du mot à mot, deux sens peuvent se présenter. Mon fils, garde-toi de multiplier les livres. D'après l'un, il ne faut pas acquérir beaucoup de livres. D'après l'autre, il ne faut pas composer beaucoup de livres. Et si ce n'est pas le premier, c'est assurément le second. Et si c'est le second, ce n'est pas du tout le premier. Cependant, il semble de toute façon que la leçon qu'il nous donne, c'est de ne pas multiplier les livres. J'aurais pu m'en tenir à ce qui me tombe sous la main, te communiquer cette maxime pour ma défense, en prouvant sa véracité par le fait que les saints n'ont pas non plus consacré leur temps à la composition de beaucoup de livres, et cessaient désormais de dicter, selon les accords dont nous sommes convenus ensemble, des textes pour te les envoyer. Il est possible que, frappé par le sens littéral, tu te serais rangé à mon opinion pour la suite. Mais puisque c'est un devoir de considérer l'écriture consciencieusement, de peur de prendre le sens qui fait plaisir, parce qu'on n'a tenu compte que du mot à mot, je ne puis m'empêcher d'indiquer des arguments qui me paraissent en ma faveur et dont tu pourrais te servir contre moi si je transgressais nos conventions. Tout ça est un peu en verdicoté, voyez, il se plaint à Ambroise qui l'oblige à travailler tout le temps et peut-être trop vite et à ne pas pouvoir s'exprimer avec les réserves qu'il voudrait. Il est finalement dénoncé accusé dans un synode qui se réunit à Alexandrie par Démétrios. Et il est banni de l'église d'Alexandrie comme indigne d'être catéchète. Il est privé de sa charge. Et il se retire à 200 km de là, à l'est d'Alexandrie, chez un de ses anciens élèves, un petit évêque de campagne à Tunis. Et là, il est poursuivi par ses détracteurs. Et quand il apporte quelque chose à Alexandrie, quand il envoie quelque chose à Alexandrie pour se défendre, c'est un concert de hurlements. Alors, de nouveau, synode. Origène est indigne du sacerdoce. Et, pour que nul n'en ignore, Démétrius publie une encyclique, publiée dans le monde entier, pour dire à tout le monde que Origène a été illégalement consacré, prêtre, qu'il est indigne du sacerdoce, et il explique... pourquoi ? Origène a 46 ans. Il est frappé d'un coup terrible. Toute sa vie, toute son œuvre, tout s'écroule. Et il fait, si je peux dire, pourquoi ne le dirais-je pas, c'est le mot propre, il fait de la dépression nerveuse. Il fait de la dépression nerveuse. Oui. Cette nouvelle lettre est le coup le plus cruel que me porte mon ennemi. Il a déchaîné contre moi tous les vents mauvais de l'Égypte. Décidément, ce peuple d'Égypte est fait pour un éternel esclavage. La tentation toute humaine du prophète Jérémie, nous risquons-nous aussi de la connaître souvent. Quand l'un d'entre nous souffre pour la science, quand il a la conviction d'être maltraité pour sa doctrine, que de fois il lui arrive de dire « Je m'en vais, qu'ai-je à faire ici ? À moi, tous ces tracas me viennent de mes fonctions, parce que j'enseigne, parce que je laisse ma doctrine aller son chemin. Pourquoi ne pas me retirer plutôt dans le désert et dans le calme ?» Oui, vraiment découragé. Alors, il s'en va retrouver hospitalité chez des amis. Il lui redonne le goût du travail à Jérusalem, à Césarée. Et Origène rebondit sur ses lits. Maintenant que la multitude des traits enflammés lancés contre nous ont été éteints par Dieu et que notre âme, habituée aux malheurs qui arrivent à cause de la parole de Dieu, a appris à supporter plus paisiblement les embûches qu'on nous a tendues, maintenant que nous avons retrouvé un ciel plus serein, nous ne voulons plus tarder à reprendre notre travail. Et nous prions Dieu que nul accident ne vienne plus en interrompre le cours et en briser l'enchaînement. les deux grands événements de sa vie. Il aurait été dommage qu'il s'arrêtât, car voici deux épisodes tout à fait importants de son existence. La rencontre, à l'origine fortuite, de Grégoire le Thaumaturge, de celui qui sera plus tard le Thaumaturge, et, mais déjà, occupons-nous de Grégoire. Grégoire est un bon jeune homme qui habite en Cappadoce, mineur sur les rives de la mer Noire, et qui se destine à la carrière de juriste. Quoi de plus louable? Il se lance dans des études de droit, il réussit, et il épuise toutes les ressources de sa province en matière de sciences juridiques. Comme il réussit bien, qu'il a de l'ambition, il veut fréquenter des universités d'un niveau plus élevé, et il choisit, toujours sur le même continent, Beyrouth, qui à ce moment-là est déjà une université importante. Or, son beau-frère vient d'être nommé conseiller juridique à Césarée de Palestine. Son beau-frère, naturellement, demande à sa femme, qui est la sœur de Grégoire, de venir le rejoindre, et c'est un modernisme étonnant, le pays n'est pas très sûr, et pour assurer la sécurité des voyageurs dans un pays où il y a des remous et des brigands, le gouvernement assure une escorte militaire aux personnages importants. Monsieur le conseiller juridique à Césarée de Palestine fait venir sa femme, il obtient une escorte militaire et il offre à son beau-frère de profiter de l'aubaine pour venir gratuitement aux frais du gouvernement avec sa sœur jusqu'à Beyrouth. Les cours n'ont pas encore repris, il va pouvoir visiter un peu le pays et ensuite il pourra continuer ses études juridiques. Voyage gratuit, villégiature au bord de la Méditerranée avant le début des cours. À Césarée, Grégoire visite. Césarée, on a vite fait le tour. Et il rend visite au maître célèbre. Et en rencontrant, par simple curiosité, on sollicite une audience, en passant, il découvre le maître. Et Origène. Également, découvre dans ce Grégoire, qui est un jeune étranger de passage, qui a dû se dire, quelle barbe, faut que je reçoive ce gamin. Allez, vite. Il découvre l'intuition du disciple, qu'il n'a encore jamais eu. Grégoire est séduit. Origène, enthousiasmé. Plus question de droit. Grégoire s'installe au pied du maître et il remplace le droit par la théologie. Ce n'est pas Grégoire le Thaumaturge, c'est Origène le Thaumaturge. Transformer un juriste confirmé en étudiant en théologie, faute de miracles qui peuvent provoquer la canonisation, celui-ci est un miracle de maître. Une étincelle, un coup de foudre. La villégiature se transforme en stage de 5 ans. Laissons-les, c'est émerveillement. Et pendant ce temps, Origène, écrit un ouvrage très important, le seul ouvrage que vous pouvez vous procurer à bon prix, c'est-à-dire pas très cher, et qui vous enthousiasmera l'âme. Car ce professeur, cet intellectuel, ce grand naïf, ce polémiste, a une âme ardente. Il n'y a pas beaucoup le temps d'exprimer tout ça, sauf dans ses sermons et ses homélies sur l'écriture. C'est à travers un buissonnement d'improvisation sur une exégèse quelquefois bien pointue ou bien difficile. Et il a écrit un traité sur la prière. Le voici, dans la petite collection du Père Amman. Je pense qu'on doit le trouver encore assez facilement. Vous verrez, ce n'est pas du tout l'atmosphère chaleureuse, enthousiasmante que vous trouvez par exemple dans les œuvres du Père de Foucault. Un romantisme adorable. C'est écrit par un professeur, mais le professeur a une foi ardente, et quand il parle de la prière, il donne tous les arguments qu'il faut donner pour prier, comment prier, où prier, pourquoi prier, tous les arguments qui font qu'on pourrait ne pas prier, qui faut-il prier, le traité complet de la prière, tel que vous nous demanderiez de l'écrire, c'est fait, le voilà. Avec un commentaire sur le Notre Père, qui, en attendant le Père Carmignac, est très satisfaisant. À la demande d'Ambroise, toujours. Car Ambroise est toujours là, il ne sait plus comment prier. Alors naturellement, il demande à Origène un traité sur la prière, et Origène écrit le traité sur la prière pour Ambroise. Merci, nous l'avons au passage. Origène a 50 ans, et voici encore un nouveau péril. Le nouvel empereur Maximin déclenche une persécution contre les chefs des églises. Origène est à peine prêtre, évidemment pas évêque, mais il est sur les listes des notables ecclésiastiques, et naturellement il est menacé. Mais d'autres le sont, et il écrit, cette fois-ci, mais aussi sur la demande d'Ambroise, car Ambroise est menacé aussi. Car cette persécution avait pour but particulier de, comment dit-on, d'épurer, c'est peut-être un mot qu'il ne faut pas non plus prononcer sans faire des remous, enfin, d'épurer, vous savez, les administrations des gens qui ne sont pas dans la ligne. Déjà, on les mettait en prison et on les tuait. On épure donc les chrétiens qui sont dans l'administration impériale. C'était la raison d'être d'Ambroise. Et Origène écrit, il n'a pas changé depuis ses 17 ans, une exhortation aux martyrs, qui est un texte brûlant, admirable, pas malheureusement encore très facile à se procurer. Il le donne à Ambroise, qui est arrêté, qui ne sera pas exécuté pour autant. Maximin, heureusement, ne règne que 3 ans, et quand ce empereur fâcheux disparaît, Origène revient à Césarée. Il donne des consultations d'exégèse, il fait des voyages d'études, il publie toujours des commentaires très difficiles sur les plus difficiles des auteurs sacrés, Ézéchiel, le Cantique des Cantiques. C'est vraiment une exaltation de travail intellectuel et apostolique. Voici un exemple de ce qu'il fait en dehors de ses cours et de ses publications. Béryl, évêque de Bostra en Arabie, faisait dévier la saine doctrine de l'Église. Il voulait introduire des points de vue étrangers à la foi. Il osait dire que notre Sauveur et Seigneur n'avait pas préexisté selon un mode d'être propre avant d'habiter parmi les hommes, qu'il ne possédait pas une divinité propre, mais seulement celle du Père qui habitait en lui. Un très grand nombre d'évêques avaient eu avec lui des discussions et des entretiens. Apparemment, sans résultat. On appelle Origène. Celui-ci entre d'abord en conférence avec Béryl pour essayer de savoir le fond de sa pensée. Lorsqu'il comprit ce qu'il professait, il rectifiait ce qu'il y avait chez lui de peu orthodoxe, le convainquit par son argumentation, le rétablit dans la vérité de la doctrine, le ramenant ainsi à sa première et saine opinion. On possède encore jusqu'à présent, dit Joseph toujours, les écrits de Béryl et les actes du synode assemblés à cause de lui. Ce procès verbal contient ensemble les questions que lui adressa Origène, les entretiens qu'il eut avec lui en son église, bref, le procès verbal, les minutes de tout ce qui a été fait alors. Autre exemple, un autre hérétique se préoccupe du sort des âmes. Excusez-moi, je m'en prie. Sort des âmes après la mort. D'autres gens que Béryl surviennent en Arabie, toujours, à l'époque dont nous parlons, et y introduisent une doctrine étrangère à la vérité. Ils disaient que l'âme humaine, dans la conjoncture présente, mourait provisoirement avec les corps au moment du trépas, et qu'elle se corrompait avec eux, mais qu'elle revivrait avec eux un jour au temps de la résurrection. On rassembla un important concile, et Origène y fut de nouveau convoqué. Il commença par prononcer plusieurs discours à l'assemblée sur la question discutée, et se comporta de telle manière qu'il changea les pensées de ceux qui, un temps, avaient été trompés. Origène a maintenant l'âge avancé, près de 60 ans. Il a acquis la maîtrise de sa science, de sa parole, telle qu'il l'autorise à qu'il accepte une servitude bien imprudente. Il accepte qu'on enregistre ses cours publics, improvisés. N'étant pas Origène, je ne le fais pas. Mais il le fait. Et c'est à cette imprudence, cette complaisance que nous devons d'avoir l'écho d'un certain nombre de ses enseignements qu'il n'a jamais eu le temps de réécrire et de reprendre par la suite. Et voici qu'à 63 ans, en 248, Origène à contre-cœur, sur la demande d'Ambroise, toujours, qui a été son bourreau et son, en même temps celui qui lui a fait faire des tas de choses merveilleuses, heureuse servitude. Origène entreprend à contre-cœur la réfutation d'un pamphlet qui vient de paraître de l'épicurien Cèse, le discours véritable, je vous parlais tout à l'heure. Il répond d'abord avec dédain, parce que c'est pas sérieux, et pour un savant de l'envergure, de l'altitude d'Origène, ce petit folie, ce petit folliculaire de Cèse ne mérite pas autre chose qu'un haussement d'épaules. Et puis il se pique au jeu. Et il, après avoir répondu d'abord de manière un peu négligente et dédaigneuse, c'est la première partie de ce traité, il finit par trouver que cette mauvaise foi est agaçante, et il la réfute, ligne par ligne, avec un style. C'est là que, pour la première fois, il devient écrivain. Il y a du mordant, des formules à l'emporte-pièce. Il est en colère, et la colère est bonne conseillère pour les écrivains. Et ça devient un véritable régal de voir Cèse écrasé, ligne à ligne, par Origène, qui lui met à chaque fois le nez dans sa petite bouillie. À la même époque, il voyage en Arabie, il a une discussion théologique très difficile. C'est intéressant parce qu'on vient seulement de découvrir le procès-verbal aussi de la discussion qu'il avait eue avec cet hérétique d'Arabie. Et ça a été publié très récemment, c'était en 1941-45, par rapport à la durée de l'édition. C'était une bonne question qu'avait soulevé cet hérétique. La prière eucharistique de la messe, à qui s'adresse-t-elle? Au Père ou au Fils? À la messe, qui invoque-t-on? Dieu le Père ou Dieu le Fils? Si c'est le Fils, qui donc est le Fils? Est-il Dieu? Alors, vous voyez, on revient à la fameuse identité divine du Fils. Cela vous paraît évident, parce que, si on réfléchit bien, si on s'identifie avec le Christ victime, les prières s'adressent-elles à lui, Dieu, alors comment est-il victime, ou à son Père? Mais alors, quelle hiérarchie faut-il établir entre eux? Oui, c'est une question qui intéresse les théologiens, mais qui entraîne des conséquences très graves. Dernière persécution, encore, décidément, Origène a commencé presque sa vie avec les persécutions, il termine sa vie avec la dernière grande persécution de l'histoire de l'Empire romain, la persécution de Thèse, en 249-250. Origène est mis en prison, et ce vieillard est torturé. Ce que furent le genre et l'ampleur des souffrances d'Origène pendant cette persécution, de quelle façon le démon avec toute son armée s'acharna sur lui, ce que furent le nombre et la diversité des supplices qu'il supporta pour la parole du Christ, chaîne, torture, supplice sur le corps, supplice par le fer, supplice dans les profondeurs des cachots. Pendant un très grand nombre de jours, il eut les pieds mis au sept jusqu'au quatrième trou. Il fut menacé du feu. Ces lettres le disent, Elles disent aussi avec vérité, exactitude, le courage avec lequel il supporta toutes les épreuves que lui infligèrent ses ennemis et comment il survécut à tout cela. Alors que le juge s'efforçait, autant qu'il le pouvait et avec zèle, de ne pas lui ôter la vie. Elle laisse entendre aussi les paroles pleines d'utilité, c'est... qu'adressa Origène à tous ceux qui avaient besoin d'être réconfortés. Oui, Origène ne périt pas dans cette persécution. Il sort de prison vivant, mais complètement ravagé, épuisé. Et il va survivre 4 ans comme une épave, sans avoir la force de reprendre quelque activité que ce soit. Eusèbe, du coup, n'en dit plus rien, ne nous signale même pas sa mort, ça ne l'intéresse plus. Nous savons simplement qu'il est mort à 69 ans passés, ayant accompli sa 69e année, et que son tombeau se trouvait à la fin du IVe siècle à Tyr. Voilà le parcours que je voulais vous faire faire autour d'Origène. Vous voyez, nous ne sommes pas montés sur les sommets, mais c'est quand même une personnalité bien intéressante et finalement assez séduisante à travers quelques défauts. Mais quelle foi, quelle ardeur, quelle science extraordinaire. Mais écoutez plutôt ce que dit de lui son Grégoire d'élève. C'était la coutume à ce moment-là, vous savez, quand on quittait un professeur, pour le remercier, on lui faisait un petit discours pour lui dire merci. Or, c'était banal. Mais là, ça sort de la banalité. Et justement, nous devons à cet extraordinaire discours de celui qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a gardé, va devenir évêque, va devenir un saint, va devenir un auteur de miracles. Tout le monde savait qu'il le devait à Origène et le rapport. On dit maintenant le rapport maître-élève a été fidèlement conservé. Il va retourner en Cappadoce, évangéliser son pays natal et participer à la conversion des grands-parents des trois grands-pères de l'Église cappadocienne que sont Saint Basile, Saint Grégoire de Nice et Pierre de Sébaste, les trois frères évêques. Et à l'origine, vous avez Grégoire le Thaumaturge. Et pour former Grégoire le Thaumaturge, Origène, vous voyez la filiation. Alors c'est un rite de départ, c'est un rite, par conséquent le style est un petit peu empoulé, c'est un genre académique, c'est une fête académique, comme on les faisait autrefois, comme les Allemands surtout aimaient beaucoup cela, avec musique, discours, un certain apparat. Mais derrière cet apparat, quelle émotion et quel hommage, car ça crève le rite pour arriver à la parole. C'est amusant, vous allez voir. C'est un long discours. Et la première parole, c'est une bonne chose que le silence. C'est ce que vous pensez depuis presque 2 heures. D'ailleurs, certains n'ont pas pu tenir. Si cette affirmation est vraie pour beaucoup, et en bien des circonstances, elle l'est particulièrement pour moi, surtout en ce moment, car bon gré mal gré, j'ai la bouche fermée et je suis contraint de me taire. Je n'ai en effet, alors ici c'est le rite des grands, tous les grands discours, je suis indigne de parler, pourquoi ouvrais-je la bouche, n'est-ce pas ? Je n'ai en effet ni pratique ni expérience de ces beaux discours élégants dont le style use de mots, d'expressions bien choisies et éprouvées, dont la composition ordonnée suit un enchaînement sans heurts. Sans doute suis-je aussi naturellement peu fait pour travailler à cette tâche délicate et vraiment grecque. Bien au contraire, il y a désormais 8 ans que je n'ai prononcé ni écrit moi-même absolument aucun discours, long ou bref, que je n'ai entendu personne qui en ait écrit ou prononcé en privé, ou qui ait produit en public des éloges solennels et des controverses. Je n'ai... etc. Bon, il est par conséquent parfaitement incapable de dire un mot. Ce qu'il explique dans une longue page tout à fait éloquente. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle cet homme ne peut pas parler, c'est évident, c'est qu'il fait du droit romain. Et il paraît que le droit romain est particulièrement stérilisant pour l'éloquence de ceux qui le pratiquent. Bien. Et puis, troisième raison pour laquelle je ne peux pas parler, oui, je tourne les pages, parce que... c'est que le sujet est tellement grand que je suis complètement dépassé par un sujet si grand, qui est vous, cher maître, qui oserait vous adresser la parole. Bien. Il est vrai que tes actions ne peuvent être rabaissées ni couvertes d'opprobre, maître bien-aimé, et bien moins encore les œuvres divines qui restent inébranlables dans l'état où elles se trouvent, car nos faibles et indignes paroles ne leur font aucun mal. Et si nous avions voulu dire des gamineries en un autre lieu ou devant d'autres personnes, nous serions certes dans le cas aussi bien hardis et bien audacieux. Cependant, la témérité dont on nous accuserait ne serait que pas de l'impudence, puisque ce ne serait pas en ta présence que nous aurions cette hardiesse. En fait, nous allons mettre le comble à la démesure de notre déraison, nous l'avons déjà fait peut-être, puisque nous osons pénétrer avec des pieds non lavés, comme on dit, dans des oreilles. Ça, c'est de la préciosité. Le goût n'est peut-être pas parfait. Nous allons pénétrer avec des pieds non lavés dans des oreilles que visite le Verbe divin lui-même, ah oui, monsieur, sans se couvrir les pieds, verbe. Ce qu'il fait pour la plupart des hommes, de mots énigmatiques et obscurs, comme de cuirs épais, mais les pieds nus, si j'ose dire, entrant en elle clair et évident. Ça veut dire tout simplement que Grégoire, Origène est inspiré, que l'esprit entre en lui, c'est-à-dire comme dans un moulin, tranquillement, sans mettre de chaussures, tandis que partout ailleurs, le verbe est obligé pour entrer dans des oreilles un peu rébarbatives de se chausser, bon, pour entrer péniblement dans des oreilles broussailleuses. Chez Origène, ça va tout seul. C'est du style académique et de l'éloquence d'étudiant. Bien. Alors, le début, n'est-ce pas, c'est bien sûr, c'est tellement long qu'il faut bien que je choisisse. Oui, la rencontre d'Origène. Oui, alors, ayant rencontré Origène, Grégoire, le thaumaturge, remercie d'abord Dieu, son ange gardien, dont Gérard serait content, et puis cet ange gardien l'a mené jusqu'à Origène, c'est merci à Dieu, merci à l'ange, jusqu'à cette rencontre. Et voici les premières impressions. Celui-ci nous accueillit dès le premier jour, car ce fut vraiment pour moi le premier jour, le plus précieux de tous, s'il faut ainsi parler, car celui où la première fois le vrai soleil commença à se lever devant moi. Au début cependant, pareil aux bêtes sauvages, aux poissons ou aux oiseaux qui sont tombés dans des filets ou des scènes et qui s'efforcent de s'échapper, de se sauver, nous voulions nous éloigner de lui pour gagner Beyrouth ou notre patrie, mais il mit tout en œuvre pour nous attacher à lui, il déroulait des discours de toutes sortes, il larguait, comme dit le proverbe, toutes les voiles, il y employait toutes ses forces, il accordait à la philosophie et à ses amants les grands et nombreux éloges qui leur sont dus, disant que seul mène vraiment la vie qui convient à des êtres doués de raison, ceux qui s'appliquent à bien vivre, connaissant tout d'abord ce qu'ils sont eux, même connaissant ensuite les vrais biens que l'homme doit poursuivre et les vrais maux qu'il doit éviter. Autrement dit, en bon directeur d'école de philosophie, Origène leur a dit que ce que vous allez faire du droit, ça ne sert absolument à rien. Vous allez réglementer à tâtons sans savoir où est la vérité. Commencez donc par apprendre la vérité sur vous, sur le monde. Et quand vous saurez la vérité, alors vous pourrez peut-être voir la suite. Or, vous êtes complètement ignorant, alors venez donc et écoutez-moi. Alors, la philosophie, c'est ça, c'est la connaissance de la sagesse, de la vérité, et il faut évidemment commencer par la philosophie avant de faire tout, n'importe quoi d'autre chose. Il l'a dit à sa manière, et encore une fois, à travers tout ce discours, on retrouve ça. Alors, c'est amusant, parce que je n'ai pas le temps de vous dire ça, c'est long, hein. Il explique tout ce qu'a été la pédagogie d'Origène, comment il a étudié ses élèves, comment il les a dressés, comment il leur a éliminé leurs défauts, comment il leur a fait faire des progrès, comment il leur a enseigné les sciences profanes avant de leur enseigner les sciences sacrées, comment il a ensuite procédé à leur conversion personnelle avant de les livrer à l'étude des sciences sacrées, car il faut commencer par les sciences profanes, se convertir à Dieu, et à ce moment-là, pourvu d'un outillage intellectuel indispensable, et ayant l'âme tournée vers Dieu, on peut entamer la lecture des sciences sacrées et aborder la théologie. Au passage, la critique des beaux parleurs qui parlent pour ne pas dire grand-chose. Et puis, il montre comment Origène est le modèle du vrai sage. Ce que je crois, pour ma part, je vous ai dit pourquoi, légèrement exagéré. Un grand savant, un grand maître, un pédagogue exemplaire, mais le sage qui domine tout et qui sait régler ses passions, ses impulsions et même les originalités un petit peu cavalcadantes ou capricantes de son esprit, Origène, non. Il y a du naïf chez lui, le sage n'est pas un naïf. Bon, mais c'est pas ce qu'on va dire à un maître le jour où il fait un discours académique d'adieu. Et ensuite, il explique comment, et c'est pour nous un témoignage tout à fait essentiel, comment Origène était un bon professeur, comment il faisait lire beaucoup de choses, même des auteurs qui n'étaient pas dans la stricte orthodoxie, les menant à travers tous les systèmes philosophiques, mais par la main, de manière à leur montrer à chaque fois où est l'erreur, et à les ramenant ensuite à la vérité. Seuls ne doivent pas être lus, dit Origène, les livres qui sont faits par des athées, parce que alors là, vraiment, il n'y a rien à faire. Éducation du sens critique, savoir écouter les discours faux, saisir le point faible du raisonnement et savoir y répondre. Vous voyez ce cursus d'études philosophiques tout à fait étonnant que Origène a fait faire à son disciple qu'il enseignait à Césarée. Hein. Il est le guide de ses disciples, l'interprète de Dieu. Et alors à la fin, si j'avais le temps, serait très amusante, parce qu'on voit qu'alors on retrouve l'éloquence fleurie de la préciosité académique et scolaire. Nous quittons le paradis et les quatre fleuves dont vous étiez conjonction. Nous quittons Athènes pour aller chez les barbares. Nous quittons Jérusalem pour aller chez Terra. Et au chapitre 17 et 18, il dit, j'ai peut-être un peu beaucoup parlé. Alors je vais me taire. Je prends ce titre, ce raisonnement à mon compte. Et il lui dit simplement, c'est très joli, le dernier paragraphe. Excusez-moi. Oui. Toi donc, lève-toi, maître bien-aimé. Dans le grec, c'est un passage de Sophocle qui est nommé ici. Ô filet, képhalais, chère tête. Prie pour nous et désormais laisse-nous partir. Tu nous as sauvés lorsque nous étions présents par tes enseignements saints. Sauve-nous par tes prières lorsque nous serons partis. Maintenant, remets-nous et confie-nous, ou plutôt rends-nous au Dieu qui nous a menés près de toi. Rends grâce pour les bienfaits passés. Prie-le de nous conduire par la main à l'avenir, en veillant sans cesse sur nous, en faisant entendre ses prescriptions à notre intelligence, en nous inspirant sa crainte divine, qui sera pour nous le meilleur des pédagogues. En effet, une fois loin, nous ne lui obéirons pas avec la même liberté dont nous jouissions auprès de toi. Près du maître, ils étaient libres. Prie-le de nous accorder lui-même quelques consolations dans notre séparation d'avec toi et de nous envoyer encore un bon guide, un ange, pour faire route avec nous. Demande-lui aussi avec instance qu'il nous fasse revenir et nous ramène auprès de toi. Cela seul, plus que tout, nous consolera. Nous avons très peu de lettres d'Origène. Elles ont été perdues. Nous avons une ou deux, une à un pape, une à un évêque et une à Grégoire, le thaumaturge, son élève favori, mais il n'a pas eu le temps de l'écrire parce qu'il était tout à la fin de sa vie. Et dans ce texte, j'ai relevé dans cette lettre à Grégoire, il y a un très beau passage sur deux choses qui me paraissent pouvoir terminer cette soirée trop longue. Le silence est d'or. Mais je parle aussi à des étudiants de la maison. Alors, d'abord, la nécessité de la culture profane, appelle à l'étude. Le bon naturel en matière d'intelligence, comme tu le sais, peut fructifier s'il est exercé. Il peut même conduire à réaliser le but auquel on veut l'appliquer. Ton bon naturel peut faire de toi un parfait juriste romain et un philosophe grec dans l'une des écoles réputées. Mais moi, je voudrais que tu utilises toutes les ressources de ce bon naturel en vue du christianisme. Là est le but. Le moyen que je souhaiterais te voir employer pour cela, c'est de prendre à la philosophie grecque ce qui pourrait être, par rapport au christianisme, comme les études préparatoires et classiques, ce qui, de la géométrie et de l'astronomie, pourra rendre service pour l'interprétation des saintes écritures. Ainsi, ce que les disciplines des philosophes disent de la géométrie, de la musique, de la grammaire, de la rhétorique, de l'astronomie, comme auxiliaire de la philosophie, nous le disons, nous, de la philosophie elle-même, à l'égard du christianisme. Au fond, c'est la ratio studiorum des jésuites. Refaire toutes les études, y compris les études scientifiques, secondaires, à un niveau supérieur. Le jésuite est entièrement remoulé, vous savez. On lui fait, dans les bonnes époques, je ne sais pas comment c'est maintenant, on lui fait refaire tout. Presque repasser son bachot, ses examens d'enseignement supérieur, et après, on le confirme, enfin, dans la philosophie, et après la philosophie, qui est la servante de la théologie, on en fait un théologien. Alors là, au bout, vous avez des maîtres. Et c'est le cursus ébauché que vous avez là, vous voyez, utiliser toutes les ressources de l'intelligence pour faire un bon juriste, un bon philosophe, et une fois qu'il est bon philosophe, devenu ensuite bon chrétien, faire un théologien. Et puis, aussi dans cette lettre à... Non, c'est dans le commentaire sur Saint Jean que je vais commencer à vous dire tout à l'heure, après ces paroles désabusées, il faut reprendre courage, dit-il. Aujourd'hui, sous prétexte de gnose, les hérétiques se dressent contre la Sainte Église du Christ. Ils accumulent les volumes de leurs commentaires où ils prétendent interpréter les textes évangéliques et apostoliques. Si nous nous taisons, nous, les intellectuels chrétiens, Si nous ne leur opposons pas les dogmes véritables et saints, ils se saisiront des âmes affamées qui, faute de trouver une nourriture salutaire, se jettent sur ces aliments défendus et qui sont vraiment impurs et abominables. Toi-même, Ambroise, c'est parce que tu ne trouvais pas de maître capable de t'enseigner une doctrine plus haute et parce que ton amour pour Jésus ne pouvait souffrir une foi non raisonnée et vulgaire que tu t'es livré jadis à ses enseignements que plus tard tu as, comme tu le devais, condamné et rejeté. Le beau programme pour nourrir les âmes affamées en leur donnant la vérité, même si on n'est pas toujours très bien compris ni récompensé. Voilà le bon Origène. Vous allez me dire, mais alors, tout ça est bel et bon, mais les erreurs d'Origène. Alors, tant mieux de terminer comme ça. Enfin, je vais quand même que vous sachiez. Il y a trois points sur lesquels il semble avoir erré. Trois points. Sur 6000 titres, un volume immense de paroles, c'est peut-être pas grand-chose, hein? C'est même trois tâches qui empêchent évidemment de lui faire entièrement confiance. La seule chose que je dois dire par honnêteté, c'est que comme ces textes sont perdus, qu'il s'agit de polémiques, de racontars, de choses qu'on a cru voir ou qu'on a lues dans ses œuvres, qu'il, si vous voulez, nous n'avons pas les textes de Fourfaire pour pouvoir. Tout de même. Première erreur sur ce qu'on appelle le subordinationnisme. Pardonnez-moi. Ça veut dire tout simplement qu'il ne semble pas avoir eu une théologie de la Trinité encore tout à fait au point. Et que pour lui, il y ait une supériorité du Père par rapport au Fils qui lui est subordonné, d'où le nom de subordinationnisme. C'est pas très net, c'est pas toujours vrai, il ne dit quelquefois cela, pas toujours, enfin, il est accusé de cela et il y a trace. Le deuxième point qui là est certainement une erreur, c'est la préexistence des âmes. Pour lui, avant la naissance, avant la conception, les âmes existaient, préexistaient, dans une sorte de univers un peu indifférencié, paradis préliminaire, si vous voulez, et puis, pour des raisons mal déterminées, elles sont un jour habillées de chair et envoyées en ce bas monde, où elles font un stage difficile, après quoi elles remontent dans l'Empyrée. Vous avez là, évidemment, une influence de la philosophie platonicienne. Et il a, semble-t-il, utilisé la philosophie platonicienne, qui enseigne en effet cette descente des âmes et la remontée des âmes, pour répondre à certaines erreurs d'hérétiques en utilisant un langage qui, évidemment, l'a entraîné là, en dehors de ce qui est admis. Et la troisième erreur, c'est-à-dire la récapitulation générale à la fin du monde de toutes les âmes. Je n'ai pas le temps de vous lire ce texte, puis enfin, je ne vais pas terminer par un texte un peu douteux. Mais il y a un certain flou pour savoir, à la fin des temps, qui sera sauvé, qui sera condamné, dans quelles conditions la récupération des corps par les âmes se fera, comment la résurrection se fera d'un seul coup, ou lentement, ou progressivement, et que sera la condition de ces corps glorieux, question difficile entre toutes, et sur laquelle il semble avoir été un peu flou, d'après les textes que nous avons. Oui, ce sont les trois points sur lesquels on chope un peu quand on le rencontre, et pourquoi on ne peut pas le considérer comme un maître aussi impeccable qu'un saint Thomas ou les autres grands saints docteurs de l'Église. Il y a là, mais à trop parler, on finit quelquefois par laisser échapper une bêtise, je ne le sais que trop, et on me le fait remarquer quelquefois, mais je ne suis pas Origène. Mais c'est le risque du métier, il le dit bien, la seule attitude normale du professeur, c'est un silence rayonnant. Que je vais observer maintenant, merci.